Classeco, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant et j'ai envie de vous dire que bah, comme tous les jours, hein, on reçoit un passager, un entrepreneur qui vient nous parler de son entreprise, de son projet, de toute l'histoire. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir de qui il s'agit, on discute juste après.
Notre passager du jour a un parcours d'or admirable. Il remet au goût du jour une boisson médiévale célèbre à son temps. Il a fait ses classes au Collège Régional d'Agriculture des Boulevards. Et aujourd'hui, les consommateurs peuvent consommer son savoir-faire. Il sait se servir du produit des ruches qu'il décline en boisson alcoolisée et en sucrerie. Classeco, le plaisir de recevoir Armel Landré et Quabman, promoteurs de bioproducts. Bienvenue à bord.
Merci Viali pour cette présentation. Vous l'avez compris, on reçoit donc aujourd'hui Armel Landry et Quapmam, promoteur de bioproducts. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez Volume 3.
Merci.
On cherche le prénom, c'est Nadine. C'est bon. ça va, vous êtes bien arrivé. C'était pas très compliqué de se retrouver. Vous êtes habitué de là quand même.
Oui. Je suis bien arrivé en fait.
Ok. Moi, quand j'ai regardé un tout petit peu, je me suis arrêtée hein, au Collège Régional d'Agriculture des Bolova. C'est où vous avez fait vos classes. Ça, c'était quoi, directement après le bac?
Non, pas directement après le bac, parce qu'après le bac, j'ai fait l'université de Douala. Mm-hmm. J'ai fait la filière physique.
Ok.
Physique chimie, en fait, mm-hmm. Où j'ai fait un an.
Ça ne donnait pas.
Pas que ça ne donnait pas, c'est vrai que j'avais des objectifs. Même en choisissant cette filière, j'avais des objectifs.
Oui.
Bon, malheureusement, les choses ne se sont pas très bien passées, mais je me suis penché vers l'agronomie.
Justement, qu'est-ce qui vous envoie dans cette... Parce que quand on fait physique, quand même, je me dis pas que c'est à la base, est-ce que c'est l'agriculture que vous vouliez faire et tout ça, ou bien on a changé de cap?
Bon, disons au départ, les objectifs étaient beaucoup plus vers des écoles d'ingénierie comme, je ne sais pas, Polytech ou
oui.
Autre. Bon, j'ai fait Polytech, ça n'a pas vraiment marché en termes de
résultats.
De résultats, oui, mais malheureusement, j'ai été recommandé par un frère, un grand frère, qui m'a parlé du Collège Régional d'Agriculture de Bolova.
Vous n'en aviez jamais entendu parler avant qu'il vienne vous dire ça?
Non. Disons que c'était une découverte.
Et quand on se destinait à une carrière d'ingénieur et tout ça, et qu'on vous dit d'aller au collège d'agriculture, vous vous dites quoi? Il se fout un peu de moi ou bien essayons?
Bon, j'ai essayé, comme vous avez dit. Et puis, bon, disons que j'ai trouvé ma passion là-bas, en fait.
Ok.
Au départ, ce n'était pas trop ça, mais dès que je me suis lancé, et puis je suis arrivé, j'ai fait le concours, ça a marché par la grâce. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé un cadre qui sied à moi parce que, jusque, comment on dit, j'ai grandi avec l'agriculture.
Oui.
Voilà, j'ai grandi avec l'agriculture, donc du coup, je me sentais à l'aise, je me sentais chez moi là-bas en fait.
Donc là-bas, on apprend seulement l'agriculture ou on fait un peu d'élevage, on fait un peu de transformation aussi?
Oui, c'est agro-pastoral et agro-alimentaire en général, donc on fait l'agriculture, l'élevage et puis... Il est quand même assez important de former des gens à être capables de transformer.
Oui.
Voilà ce qu'il produit.
Donc, c'est souvent... on y passe combien de temps?
Bon, déjà au Collège Régional d'Agriculture, c'est 2 ans.
Mm-hmm.
Après le bac, en fait, tout dépend du cycle qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi le cycle après bac, donc niveau bac, en fait.
Mm-hmm.
Donc là, c'est 2 ans pour sortir technicien supérieur d'agriculture avec l'option conseil agro-pastoral. Donc, je suis conseiller agro-pastoral.
Le conseil agro-pastoral fait quoi concrètement? Nous qui ne connaissons pas les choses de Charles.
Oui, donc là, en fait, ils accompagnent des acteurs du monde rural, donc des producteurs, et dans le cadre de leur production, donc sur le plan technico et économique aussi.
D'accord. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer dans un projet d'élevage, dans un projet agricole, on peut se tourner vers vous pour que vous lui donniez un tout petit peu la démarche à suivre.
Naturellement, oui.
D'accord. Maintenant, vous avez étudié l'agriculture, la transformation. Qu'est-ce qui vous fait vous tourner vers le miel? Pourquoi le miel?
Bon, et pour le miel, disons...
Il faut se rapprocher du micro. Voilà.
Bon, comme je disais tantôt, pour le miel, c'est pendant mes exercices sur le terrain, après la formation à Ebolova, je me suis lancé dans une activité de commercialisation des produits agro-pastoraux, en général, en l'occurrence le miel.
Oui.
Et là, je me suis rendu compte pendant cet exercice, ce côté qui est un peu lent du marché. J'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que je peux bien faire de ce miel-là qui est pour davantage aussi étendre le marché aussi à, voilà, j'ai fait mes recherches et tout, je me suis trouvé les différents dérivés qu'on peut faire du miel. Notamment l'hydromel et les confiseries et tout. Bon, je me suis lancé, j'ai commencé à faire mes recherches et tout.
Les recherches, ça a pris combien de temps?
Aujourd'hui, on est à 3 ans. Ah, oui, 3 ans, ouais. 3 ans.
Donc, vous avez fait des recherches pendant 3 ans? Ou bien vous continuez à faire les recherches?
Je continue. Déjà, on a un produit qui est déjà consommable, qui peut plaire aux consommateurs, ou alors qui plaît aux consommateurs déjà. Mais on continue toujours de travailler pour davantage améliorer.
Donc, c'est parce que vous aviez un peu trop de miel qu'on ne vendait pas assez vite. Vous avez dit que, puisque de toutes les façons, on boit de l'alcool. Si j'en fais de l'alcool, ça va aller. D'accord, maintenant, c'était pas vraiment la passion du départ, c'est la situation économique qui vous a fait voir un tout petit peu l'opportunité de faire ce business. Donc, c'est un produit à base de miel. Du coup, au départ, vous achetiez le miel, il vient, est-ce qu'il y a une provenance en particulier? Parce qu'il y a toujours le débat sur le miel. Est-ce que c'est pour le nord? Est-ce que c'est pour l'ouest? D'où il vient le miel?
Bon, déjà, quand je me suis lancé dans la production de l'hydromel que vous connaissez, j'ai dû d'abord, pendant mes recherches, tester plusieurs types de miel parce que, en fonction des zones agroécologiques, on a des miels de saveurs différentes. Il a fallu que je teste ci, je teste ça.
Donc, on peut retrouver quelles saveurs différentes en fonction des zones agroécologiques?
Bon, déjà aussi, la saveur du miel dépend aussi parfois de quel type de fleurs.
Tout ce qu'ils connaissent, c'est qu'il y a le miel d'eucalyptus. Le reste, là...
Voilà, mais l'eucalyptus, c'est une plante, c'est une essence forestière, si je ne me trompe pas. Déjà, quand le miel, l'abeille consomme son miel, forcément, le goût aura le goût de l'eucalyptus. Par contre, on a parfois dans d'autres zones où les abeilles piquent un peu de partout. Oui. On a ce qu'on appelle le miel de tout fleur. Mais jusque-là, selon aussi, comme j'ai dit, selon des zones agroécologiques, on aura toujours des saveurs assez différentes. Bon, moi, après mes recherches, j'ai eu cette apiculteur avec qui je travaille, qui m'a donné quelque chose qui est assez satisfaisant, en fait.
D'accord. Donc, vous ne vous êtes pas lancé dans « oui, je vais avoir mes propres rues, je préférerais travailler avec les apiculteurs ».
Bon, j'ai réfléchi à pouvoir mettre mes pauvres, mais pour le moment, je travaille avec les apiculteurs.
Justement, trouver cet apiculteur-là avec qui vous pouviez travailler, est-ce que c'était facile? Vous en avez testé combien?
Pratiquement 5.
Toujours dans quoi? Dans le Grand Ouest?
Oui, la plupart, oui. L'autre venait du Nord, l'autre du Centre, mais le reste, le Bafoussam, Bafang et tout. Bon, disons que la plupart viennent de l'Ouest.
D'accord, donc vous travaillez avec aujourd'hui un seul apiculteur ou plusieurs?
Pour le moment, je travaille avec un seul apiculteur.
D'accord, ça veut dire que niveau quantité, il a quand même une grande production.
Oui, et un miel assez satisfaisant.
D'accord. J'ai envie de dire que depuis le temps qu'on reçoit les gens ici qui font du vin et tout ça, on sait que tout ce qui a du sucre peut devenir de l'alcool. Mais quand même. Moi, c'est dans les films qu'ils voient l'hydromel. Si j'avais passé à côté en dehors du salon de l'artisanat du parcours Vita pour le département du Voury, c'est quoi les grandes lignes pour passer du miel à l'hydromel?
Déjà, le miel, comment on dit ça, a ce qu'on appelle des ferments, les ferments endogènes.
D'accord.
Mais néanmoins aussi pour mieux ou alors pour catalyser aussi cette fermentation. Déjà, je rappelle, on obtient cet hydromel par fermentation du miel.
D'accord.
Voilà.
Donc, ce qui veut dire que quand on a recueilli le miel, c'est quoi les grandes lignes pour arriver à l'alcool?
Déjà, on passe d'abord, on y ajoute, j'associe le miel avec de l'eau, l'eau de source, de l'eau minéralisée de source, naturelle bien sûr. Où on introduit dans des cuvées, de fermentation après une bonne formulation. Donc il y a une certaine quantité de miel à ajouter.
Mais ça, c'est le secret des bioproducts.
Voilà. Donc après avoir bien analysé selon le taux de sucre ou alors le taux d'alcool prévisionnel qu'on souhaite avoir, mm-hmm, et selon le sucre résiduel qu'on souhaite aussi avoir à la fin, et on fait cette formulation. Bon, on y ajoute donc des ferments exogènes avec un taux d'alcool, comme vous pouvez voir, on a ce titre à 12% d'alcool.
Oui. Et après la fermentation, ça, il y a une durée minimum, maximum, comment ça se passe? Ou bien ça dépend?
Déjà la fermentation, lui, du pratiquement, on est sur, pour partir de la fermentation jusqu'à la clarification, on est pratiquement sur un mois.
D'accord.
Après ça, on passe à ce qu'on appelle le vieillissement. Donc okay, comme vous pouvez voir, mon vin, lui, il est à un an d'âge déjà, 2024.
D'accord. Bon, je veux qu'on s'arrête un peu à la clarification, parce qu'on peut parler de quelque chose qu'il ne comprend pas, il reste tranquille. On a compris la fermentation. Maintenant, la clarification, c'est quelle étape avant le vieillissement?
En fait, c'est l'étape qui remplace. Généralement, pendant la fermentation, il y a cette nuance de levure ou alors de mélange de ferments,
oui,
avec le miel.
Mm-hmm.
Bon, il est question donc de d'enlever donc cette nuance de ferment là,
mm-hmm,
pour avoir quelque chose de présentable, d'assez propre.
Et... C'est quoi, il y a une couche qui se forme au-dessus ou bien c'est mélangé et puis il faut on va dire quoi, je ne sais pas s'il faut dire tamiser, parce que le vocabulaire c'est...
Bon, il y a ce qu'on appelle des clarifiants. Mm-hmm. Nous, puisqu'on est dans quelque chose d'assez naturel,
oui,
bon, nous on fait usage des clarifiants naturels.
D'accord.
Comme voilà, on fait usage pour préciser de l'albumine du blanc d'œuf.
L'albumine du blanc d'œuf.
Voilà.
Je ne pourrais pas imaginer que pour faire le vin, on va se retrouver avec les œufs. Mais bon, vraiment, ça c'est physique, chimie, ceux qui ils comprennent le rayon là, moi vraiment, ça me dépasse un peu. Maintenant, dans le développement, on a l'hydromel pur et puis on a ce que vous avez appelé le mélomel. Comment on arrive? Est-ce que c'est parce qu'il vous fallait nécessairement du rouge ou c'est parce que vous vouliez tester autre chose? Comment on arrive à se dire que oui, on va au miel, on va ajouter de l'oseille?
Bon, là, honnêtement, c'est plus ou moins une petite innovation pour nous. Les mélomènes, ça existe, c'est assez connu. Ce sont des vins de miel associés à d'autres spéculations. Nous, on l'a associé pour nous avec de l'oseille,
mm-hmm,
qui non seulement donne cette robe rouge au vin et aussi une certaine autre saveur, en fait,
ouais,
pour faire différence et aussi toucher une large gamme en fait, toucher au maximum de consommateurs.
Donc, vous avez commencé par le blanc. À quel moment vous dites qu'il faut faire du rouge? Et est-ce que vous testez plusieurs avant de décider que ce serait l'oseille?
Non. Déjà, avec l'oseille, déjà, en fait, pas ses propriétés.
Oui.
Voilà. Donc, du coup, on a choisi l'oseille. Après avoir fait plusieurs tests d'abord sur notre hydromel blanc,
mm-hmm,
et avoir même un résultat assez satisfaisant, on s'est dit que bon, on peut essayer d'évoluer un peu et améliorer en fait les choses. Bon, on a pensé choisir l'oseille pour associer avec notre mélomel et avoir cette robe rouge là.
D'accord, et au niveau process, c'est le même si on fait fermenter ensemble l'oseille avec le miel et on ajoute tout ce que vous... Là, il y a une différence.
Non, c'est le même process déjà. On associe au départ, en fait, avant, mm-hmm, de fermenter.
D'accord, et on reste sur le même temps. On a dit quoi? C'était deux mois pour la fermentation. La clarification, c'est rapide et le vieillissement, c'est minimum un an.
Voilà.
Donc, ce qui veut dire que chez vous, rien ne sort pour être mis sur le marché avant un an, c'est ça?
Bon, un an, c'est parfois aussi, on parlait sur 8 mois, 5 mois. Le temps quand même d'avoir quelque chose d'assez fine et assez mature en bouche, en fait.
Mm-hmm. Donc, c'est minimum 5 mois avant la mise en bouteille.
Mise en bouteille chez nous, ouais.
D'accord. Et tout ça, on sait que chez nous, on parle de ceux qui font le vin. Là, on sait que les gens n'ont pas les fûts de chêne et tout ça. Comme on dit souvent, on utilise quoi? Il y a un matériau de prédilection pour le vieillissement?
Déjà, dans la viticulture, on peut faire usage de matières plastiques. Non, en fait, on dit ça comment? Bref, on fait usage de matières plastiques, de matières en bois,
mm-hmm,
et aussi en verre.
D'accord.
Bon, chez nous, pour faire vieillir, nous, on utilise des dames-jambes en plastique.
Ok.
Des dames-jambes, ouais.
Comme pour le type vin de palme qu'on voyait souvent avant dans les grandes...
Oui.
Ok, d'accord. Maintenant, comment le produit il est sur le marché depuis quelques... Ça fait combien de temps exactement?
Nous sommes entrés sur le marché, ça va faire déjà 2 mois seulement.
Voilà,
mois,
justement, ouais. Parce qu'il me semblait quand même assez jeune. Les premières réactions quand vous êtes dans les foires, dans les événements, quand on vous voit avec votre vin et puis vous dites que bah, ah, c'est du miel.
Oui, bon, jusqu'ici, c'est très apprécié quand même par les différents consommateurs.
Mm-hmm.
Les réactions sont plutôt très bonnes pour nous, mais on sait que davantage, il faut toujours améliorer.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a toujours les appréciations et aussi des remarques,
oui,
forcément, pour nous aider toujours à améliorer.
D'accord. Donc, il y a un distinguo que je voulais qu'on fasse. Il y a Bioproduc, qui est quoi? L'entreprise mère qui porte, je suppose que c'est celle que vous avez créée au départ quand vous vouliez juste vendre les produits. On a gardé pour le nom de l'entreprise. Par contre, le vin, il est vendu sous l'appellation Mim Niam. J'espère que je prononce bien. Bon, dans ma langue, je sais que Mim, c'est la boisson. Niam, maintenant, c'est quoi? C'est le miel? Ou bien c'est quoi?
Niam, c'est Dieu.
D'accord. Ah, le vin, c'est le vin
des dieux.
Le vin des dieux.
Voilà.
D'accord. Ok. Bon, vous avez compris, hein, c'est le vin des dieux, mais ne pensez pas que vous allez vous transformer en... Pourquoi c'était important pour vous donner ce nom-là?
Généralement, on appelle l'hydromel le vin des dieux. Bon, déjà, peut-être pour ceux qui savent ce que c'est que l'hydromel, c'est une vieille boisson médiévale qui a toujours été considérée comme une boisson divine, si je peux dire ça ainsi.
Mm-hmm.
Maintenant, nous, on a voulu donc, puisque pour ramener ça à notre tradition, juste traduire ça en notre langue locale,
oui,
qu'on l'appelait maintenant Mim Niam, qui signifie le vin des dieux.
D'accord. Et puis, vous ne vous êtes pas arrêté là, parce qu'avec du miel également, vous faites des bonbons.
En effet, oui. Avec du miel également, on fait des bonbons. Des bonbons qu'on appelait notre marque Ola.
Oui.
Ola bonbons à base de miel.
On va dire que vraiment, je n'ai pas l'habitude. Je pense que quand je vais voir pour vous là en dehors des réseaux sociaux, ce sera peut-être le premier bonbon au miel que je verrai. Mais pourquoi décider de faire des bonbons avec du miel?
Bon, comme je vous ai dit, j'ai voulu toucher au moins au maximum.
Donc, si on pas boit l'alcool, on peut au moins ces bonbons.
Déjà, on se limite pas seulement aux adultes, on touche aussi la galerie des tout petits.
Mm-hmm.
Avec des bonbons à base de miel.
100% miel, il n'y a rien d'autre.
Bon.
Ou on gélifie un peu, comment ça se passe?
Nous, pour faire gélifier, comme vous avez dit, on fait usage des sirops de glucose.
D'accord.
Mm-hmm.
Sirop de glucose, avec le miel qui est déjà sucré. J'ai envie de dire que le sucre plus le sucre, ça n'est pas trop sucré ou bien on réussit à stabiliser ça?
En réalité, oui, c'est bien quantifié. C'est bien quantifié à ne pas déborder. Parce qu'on a quand même de nos outils d'analyse où on contrôle les différents taux de sucre à chaque préparation, en fait.
D'accord, ça veut dire que comme c'est les bonbons et que c'est le miel et que c'est pas censé être, c'est pas nocif normalement, on peut en consommer à volonté ou bien on limite quand même un peu parce que c'est toujours les dents, les enfants, il y a les grands enfants aussi, mais bon.
Bon, c'est déjà ce sont des sucreries et comme on dit souvent que tout à l'excès nuit.
Donc on va pas penser que c'est parce que c'est le miel que ça va passer.
Forcément non.
D'accord, ça vous a pris combien de temps pour développer ce produit-là aussi? Parce que si le vin il est sur le marché depuis 2 mois, c'était pendant durant le même temps, la même période que vous avez fait tester aussi pour les bonbons au miel.
En effet, oui, c'est toujours pendant cette même période là en fait. Mais déjà le bonbon lui il est sur le marché avant le vin.
Mm-hmm.
Parce que lui au moins c'est assez rapide, on fait vite et puis on met directement à la portée des différents consommateurs. Lui ici ne prend pas du temps. Bon, maintenant là, on a toujours voulu, dans l'optique d'améliorer aussi,
mm-hmm,
changer un peu notre packaging pour toujours satisfaire la demande des différents.
Oui, c'est la raison pour laquelle sur nos réseaux aujourd'hui, vous ne verrez pas la photo des bonbons. Oh là, mais quand je vais recevoir mon carton, je vais filmer, je vais vous montrer. Donc en ce moment, on est dans le process de changement de packaging et tout ça.
En effet, oui.
D'accord. Et ça, sur le marché, ça se passe plutôt bien?
Oui. C'est toujours assez timide parce que encore peu connu par le grand public. Raison pour laquelle nous on se bat à notre niveau pour faire valoir au mieux notre...
C'est la sensibilisation. J'espère que votre passage en classe éco aujourd'hui va servir aussi à cette sensibilisation, à populariser ces produits que vous vous battez à mettre sur le marché, parce que je pense que c'est quand même une petite révolution dans l'univers des produits locaux, parce qu'on est habitué au vin, on savait déjà que pour l'oseille, mais l'oseille est associée au miel, on voyait oseille ananas et tout ça. Le miel, ça change un peu. Du coup, aujourd'hui, niveau quantité, quelle est la quantité de miel dont vous avez besoin quand il faut lancer une production de vin ou une production de bonbons?
Disons que par mois ou alors par cycle de production, on peut aller sur pratiquement une soixantaine de litres de miel.
D'accord. Avec 60 litres de miel, on sait à peu près combien de bouteilles d'hydromel on aura? Ou bien ça dépend?
Bon, forcément, ça dépend. Ça dépend parce que il y a d'abord, au cours du process, il y a forcément des quantités qui vont être perdues à la fin. Mais néanmoins, quand on finit un autre cycle de production, on se dit, bon, on peut facilement, par rapport à la quantité du départ et la quantité à la fin, on peut facilement dire que, okay, si on fait usage de peut-être 20 litres de miel, on peut avoir... peut-être dit n'importe quoi, 40 ou 50 bouteilles de vin.
D'accord, complètement quand c'est seulement l'hydromel, mais je pense qu'on peut en avoir plus quand on associe l'oseille.
Bon, non, pas, c'est toujours la même chose.
Ah bon? Pourquoi? Alors quand on ne diminue pas la quantité de miel pour ajouter l'oseille?
Je rappelle juste que l'oseille, lui, il nous donne juste cette robe rouge. Aussi, en fait, on extrait forcément son côté jus, si on peut appeler ça comme ça.
Oui.
Mais ce n'est pas l'oseille qui entre dans la bouteille.
Ok, d'accord. Donc l'oseille, c'est juste par souci de vous proposer une autre couleur. Maintenant, en termes de saveur, on est plutôt sur un vin sec ou alors plutôt un moelleux?
Je dirais un demi-sec.
D'accord.
Demi-sec avec un taux de sucre vraiment très limité.
Alors que ce soit le blanc ou le rouge, on est sur un demi-sec.
Oui, on est sur un demi-sec. Titré à 12% d'alcool, pour le moment, on travaille sur 12% d'alcool.
C'est pour augmenter ou bien c'est pour diminuer? Quand on dit pour le moment là?
En réalité, bon, on comptait toujours forcément proposer du sec, du moelleux et du demi-sec.
D'accord.
Peut-être on peut aller sur 10 ou 11% pour le moelleux et aller peut-être sur le sec à 14 ou 13% d'alcool.
D'accord, je rappelle que le produit il est jeune, donc pour l'instant on va se contenter sur le marché du demi-sec. Quand on va revenir tout à l'heure, monsieur Ekwafmem va nous dire c'est quoi les prix, où est-ce qu'on retrouve les produits en sec dans ce programme. C'est la partie que vous attendez, là où on parle nécessairement d'argent. Il va aussi nous dire un peu combien de millions il a rassemblé pour lancer un tel projet. On va marquer la pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce programme.
Le passager du jour dans Classe Éco.
Bienvenue en Classe Éco.
Normalement, les bactéries et les pathogènes ne prolifèrent pas dans un milieu alcoolique.
Ok. Donc, même si on a à vie.
Justement. Et l'une des particularités également des alcools, c'est que on dit souvent, plus le vin vieillit, plus il se bonifie avec le temps. Voilà, et c'est la particularité des alcools également, que ce soit les liqueurs, même le rap. Donc, plus ça dure,
mieux
le goût.
Tant qu'on attend, voilà. Je ne suis pas encore passé. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de penser que mais le rap.
Retrouvez Nadine Nanguet de lundi à jeudi entre 10h et 12h. Seulement sur Volume 3.
Classico.
Hé, pause. Classico se passe aussi sur notre application Volume 3 Cameroun. Classico pour découvrir et célébrer la diversité des parcours de vie. Le passager du jour dans Classico.
Merci beaucoup à Tina Ndjongo pour ce flash d'information. Nous sommes de retour dans ce studio pour la deuxième et dernière partie de l'échange avec notre passager du jour qui n'est autre que Armel Landry Ekwafmem, promoteur de bioproduits et donc qui nous propose aujourd'hui du vin de miel et des bonbons au miel. Donc, tout à l'heure, on parlait des catégories. On a le blanc, on a le rouge. Maintenant, ça coûte combien?
Déjà, la bouteille, c'est 5000 francs, la bouteille.
Beaucoup d'argent comme ça. Donc, toutes les ça n'existe qu'en 75 centilitres.
Oui, ça n'existe que pour le moment, ça n'existe qu'en 75 centilitres, ouais.
D'accord. Et une bouteille, que ce soit le rouge ou le blanc, c'est 5000. Ou bien.
Bon, ça c'est le prix de la bouteille. Il y a aussi le paquet, le packaging de 6 bouteilles, le carton de 6 bouteilles qui coûte 21 000 francs. Donc un peu moins que de 5 000.
On calcule déjà comme ça. Donc bouteille, 5 000, ça c'est au détail. Si on prend le carton de 6, ça fait 21 000.
Donc à peu près 3 500 francs la bouteille.
D'accord. Donc si on veut payer à 3 500, il faut acheter le carton. En tout cas, et pour les bonbons?
Bon, le bonbon, on a ce paquet de 50 bonbons qui coûte 900 francs.
D'accord, 50 bonbons, 900. C'est pas cher pour les bonbons. C'est la poche des parents qui pleut. Donc, ça existe seulement sous le conditionnement de 50 bonbons?
Oui, on a des bonbons, des petits roulés, mm-hmm. qui peuvent être retrouvés aussi individuellement dans nos points de distribution à 25 francs le bonbon.
Donc, si on trouve ça dans un point de distribution, à l'unité, c'est 25. Mm-hmm. D'accord. Du coup, tout ça, on achète où? Si on veut en acheter, où est-ce qu'on va?
Déjà, bon, pour le vin, pour le moment, nous, on travaille avec des boutiques spécialisées Made in Cameroun.
Lesquelles?
Nous sommes actuellement à Mon Market.
Oui, ça, c'est à Yaoundé.
Centre artisanal de Yaoundé. Oui. On est à Kenza Market.
Oui, ça, c'est encore Yaoundé. À Douala, on fait comment?
À Douala, nous sommes à Oxy Market. Ils sont à Dobo Mbifaga.
D'accord.
Comment on appelle encore l'hôtel là, quelque part Dobo Mbifaga.
Moi, je connais le Carrefour Mbifaga. Le reste des choses qui est à côté là, c'est un peu compliqué. Donc, ça s'appelle Oxy, c'est ça?
Oxy Market.
C'est une boutique spécialisée aussi.
Oui.
D'accord. C'est le seul point à Douala pour l'instant. Alors qu'il y en a déjà deux à Yaoundé.
Il y en a même trois à Yaoundé.
C'est juste. Bon, le dernier point de Yaoundé, c'est où?
Ils sont à Kinda Shop.
Chez Kindak, oh, d'accord.
Kindak Shop, oui.
Ok. Bon, pourquoi la préférence de Yaoundé? À Douala, on doit seulement marcher dans tout le pays, ou bien c'est comment?
Bon, disons que on s'étale sur le marché petit à petit et progressivement en fonction de
la demande.
De la demande, non seulement de la demande, aussi notre moyen en fait, de promotion qu'on a à notre niveau pour le moment.
Donc il y a plus de facilité dans ces points de vente du côté de Yaoundé qu'à Douala.
Voilà.
Ok. Ouais, bon, tous ceux qui tiennent les boutiques de produits locaux à Douala, je sais pas, il y a quoi, Ampiade, Adeido, je sais pas si Mbo, mais encore là, ou chez Sanzo, peut-être que c'est un produit qui va vous taper dans l'œil et que vous trouverez. Parce que c'est aussi les histoires des accords, peut-être que ça peut marcher. Mais sinon, est-ce que à Douala, on peut se faire livrer?
En effet, nous on livre partout.
Mm-hmm.
Donc le client a la possibilité de commander directement à notre niveau, qu'il soit à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala, je ne sais pas où, au Cameroun.
Pour commander, il y a un numéro appelé?
En effet, oui. Le 650
17
42 02 03.
Et à ce moment là, quand il faut expédier, je suppose que vraiment une bouteille, ça ne vaut pas, ça vaut pas la peine, c'est les cartons, c'est ça?
Au moins c'est un carton. En réalité, le carton c'est plus facile, au moins c'est pour la manutention, même dans dans les moyens de transport.
Oui. D'accord. Du coup, il me semble que l'usine elle est à Kekem, c'est ça?
En effet, oui.
Pourquoi à Kekem?
Bon, déjà, c'est mon village natal. Déjà. Mm-hmm.
Non, il fallait aller au village.
Non, et aussi, on a choisi Kikem déjà pour son climat, parce que la viticulture, il y a d'abord la température, elle est assez importante.
Mm-hmm.
Elle compte aussi beaucoup.
Il faut que ce soit frais.
En effet, oui, il faut que ça soit frais. Quand on n'a pas encore peut-être autant de moyens pour mettre à disposition un climat adéquat, on ne peut qu'aller là où c'est ça.
On n'a pas besoin de dépenser pour ça.
Voilà.
D'accord. Et justement, à Kekem, comment ça se passe les journées entre production de vin, production de bonbons, récupération de miel et tout ça? Vos journées, elles ressemblent à quoi?
Bon, déjà, je ne fais pas uniquement dans la transformation, je fais aussi dans les produits, la production les activités champêtres.
Normalement, après avoir étudié l'agriculture et avoir grandi dans les champs, on va laisser ça comment?
Voilà, justement, c'est mon quotidien en fait. Ici, je ne suis pas dans mes travaux champêtres, je suis dans mon unité de production.
Les travaux champêtres, c'est également destiné à la commercialisation ou bien c'est pour les besoins alimentaires, cela?
Bon, destiné à la commercialisation, bien sûr.
Et là-bas, on retrouve quoi?
Bon, nous on fait dans les cultures maraîchères et pérennes aussi. Mm-hmm. Comme maraîchère, on est beaucoup plus dans du piment, du gombo.
Ok.
Et comme culture pérenne, on est dans le cacao, le café.
Mm-hmm. Le cacao qui vaut quelque chose en ce moment-là.
Voilà, bon, et puis forcément aussi dans l'élevage porcin. En fait.
Mm-hmm. Donc ça veut dire que tous les jours, vous n'êtes pas à l'usine de production.
En effet.
C'est quoi, on s'entend avec l'apiculteur, tu vas me livrer mes 60 litres de miel, ce qui veut dire que je peux programmer la production ou bien il y a des périodes.
Bon, déjà quand on lance peut-être notre fermentation qui d'ailleurs prend du temps et aussi vu qu'on n'a pas encore peut-être une grande chaîne de production, mm-hmm. où on doit être là forcément chaque jour, quand on a lancé notre fermentation et qu'on a appelé à suivre juste que ce soit la température ou bien l'évolution des degrés Brix pour ceux qui vont peut-être comprendre.
Quand on dit degrés, il faut nous expliquer comment aussi ils comprennent. Degrés Brix, c'est qui?
En fait, ça renvoie au sucre. En
ah,
fait,
d'accord, voilà. Ok. Au taux de sucre dans le...
sucre dans le mou.
Ok, d'accord. Donc, on n'a pas besoin de venir vérifier tous les jours?
Non, pas tous les jours.
C'est quoi? C'est une fois par semaine au moins, le reste du temps, on est dans les activités champêtres.
En effet. Et bon, pour le bonbon, puisque lui, beaucoup plus on le produit à la demande, parce que...
Pourquoi à la demande? C'est en fonction des points... Justement, les endroits où on trouve le vin, on trouve les bonbons?
Oh, pas encore pour le moment.
Ok.
Pas encore, mais d'ici peu, puisqu'on va
lancer une nouvelle production.
Lancer une nouvelle production, immédiatement on va distribuer dans tous les points de vente du vin actuellement. On va le faire au plus vite. Et comme j'ai dit à la demande, déjà le bonbon lui ne prend pas assez de temps pour produire.
C'est quoi, c'est une journée?
Oui, c'est déjà fait de 30-40 minutes maximum, on a lancé une production. C'est qu'il reste,
et on peut avoir combien de paquets de bonbons par production?
Déjà par jour, mm-hmm. nous on peut facilement faire, on fait les 50 paquets.
Ok.
50 paquets par jour.
Mm-hmm.
Donc du coup, on essaie d'enchaîner au fur et à mesure qu'il y a, le besoin, il y a la demande, on essaie d'enchaîner.
D'accord. Aujourd'hui, par cycle de production, vous avez à peu près combien de litres de vin? C'est quoi l'objectif de chaque cycle de production?
Disons, ça évolue quand mm-hmm. même forcément avec le temps. Au départ, on a commencé tout petit quand on était dans nos expérimentations. Aujourd'hui, on est pratiquement sur 150 litres de vin produit d'un seul coup de fermentation, en fait.
D'accord. Et ça arrive quoi? Une fois par mois, tous les deux mois, c'est par trimestre?
Forcément, c'est une fois par mois.
Ah, d'accord. Donc, 150 litres, c'est sûr que tous les mois, vous produisez ça et que les 150 litres sont partis.
Mais aussi, on se rassure aussi, bon, puisqu'il y a d'abord ce temps de vieillissement, oui. qui va aussi être là. Et puis, selon aussi le stock mis en bouteille est aussi en train d'être écoulé, il faut toujours se rassurer de produits. Dieu merci, en fait, on est entré tout récemment sur le marché, mais ça commence à sortir, il y a les gens qui en demandent, mm-hmm. ça plaît bien aux gens et on espère en avoir au maximum de consommateurs de nos vins.
D'accord. Un tel projet, j'ai envie de dire qu'on le lance avec quel capital? Il faut combien à peu près? Ou du moins, vous vous souvenez avoir investi combien au départ?
J'ai commencé tout petit. Je dirais avec 30 000 francs, j'ai acheté. Déjà le matériel de production ou alors le matériel de viticulture, mm-hmm. ça ne se trouve pas les boutiques du coin.
Oui.
Il faut chercher.
Mais c'était pas compris dans les 30 000.
Comme je vous dis, j'ai commencé d'abord par les expérimentations. Mm-hmm. Ce n'était pas encore une production en tant que telle. J'ai commencé d'abord à acheter le strict nécessaire pour le petit test qu'il me fallait.
Mm-hmm.
J'ai commencé avec ça. Et quand je me rendais compte que non, il me faut ci, il me faut ça. Aujourd'hui, je suis plus ou moins assez outillé déjà pour la production.
Mm-hmm.
Et aussi, j'ai d'abord commencé forcément toute seule et puis bon, créer autour de moi une communauté de personnes avec qui je travaille actuellement.
D'accord, et ces personnes ne travaillent pas gratuitement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà un peu l'argent. Justement, si on veut être distributeur, comment est-ce qu'on procède?
Pardon.
Si on veut distribuer vos produits, pour ceux éventuellement qui écoutent et que ça intéresse d'avoir vos produits dans leur espace.
Bon, directement, il faut forcément appeler et commander à notre niveau. On va prendre les dispositions pour les satisfaire.
D'accord. Et en termes de certification, on en est où?
Oui, bon, actuellement nous sommes à la norme.
Mm-hmm.
Et nous sommes à la norme pour forcément suivre notre dossier de certification. Il y a tout un cheminement à suivre.
Oui.
Et puis bon, on est là-dessus et on essaie d'évoluer par la grâce. On espère que d'ici peu, on va finir avec.
D'accord, c'est toujours intéressant pour les gens de savoir que oui, le process est quand même déjà entamé et qu'il y a quand même un niveau de contrôle. Mm-hmm. Maintenant, votre principal canal pour vous faire connaître, c'est quoi? C'est plus les réseaux sociaux ou plus les foires?
Bon, pour le moment, c'est plus les réseaux sociaux. Quand on organise des fois, on se rassure à être présent. Bon, disons que jusqu'ici, depuis qu'on a lancé notre commercialisation, nous sommes sur deux fois. La première, c'était au palais de congrès organisé, une conférence organisée par le ministre des petites et moyennes entreprises.
Mm-hmm.
Où on a eu quand même une petite opportunité de présenter notre produit.
Oui.
Bon, par la suite, c'était
le SADAV.
Le SADAV, voilà.
Ah, vous n'avez pas pu participer au SARALI, malheureusement, ce qui fait que vous faites pas partie des gens qui ont été sélectionnés pour aller au SIARC. Mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a quand même d'autres événements en vue auxquels vous avez prévu de participer ou pour l'instant, non, on est concentré sur la production, sur la recherche de partenariats?
Oui, bon, on prévoit quand même, en fait, on s'est enregistré récemment pour Yafé à Yaoundé,
oui.
Voilà, qui aura lieu en décembre.
Mm-hmm.
Donc, ceux qui sont à Yaoundé vont peut-être avoir l'occasion de voir.
Il n'y a pas d'événement à Douala en décembre, je ne sais pas. Je pensais que quand on est à Kékém, on arrive plus facilement à Douala qu'à Yaoundé. Je ne comprends pas cette ultra proximité avec Yaoundé.
Bon, j'ai eu beaucoup d'opportunités déjà par là-bas pour le moment.
Mm-hmm.
Douala aussi sur notre ligne de mire, comme on dit souvent.
D'accord, donc à Douala c'est plus lent.
C'est plus lent un peu à Douala. On espère avoir aussi au maximum de consommateurs du côté de Douala.
D'accord, jusqu'ici en deux mois de mise sur le marché de commercialisation de votre produit, est-ce que on va dire quoi? Financièrement, vous rentrez déjà dans vos frais ou bien non, on amortit encore seulement?
Pour le moment, on a moitié encore. Notre souci est d'abord de faire connaître notre produit au mieux,
mm-hmm.
faire valoir au mieux notre produit,
mm-hmm.
avec les dégustations et tout et tout et tout. Forcément, ce sont des coûts qu'on supporte à notre niveau pour le moment.
D'accord. Est-ce que quand même, en étant, on va dire quoi, nouvelle arrivée sur le marché, vous avez quand même discuté un tout petit peu avec vos devanciers dans ce secteur-là, parce qu'il y en a qui font du vin, qui sont sur le marché depuis longtemps, question de voir un tout petit peu les réalités du marché ou vous faites votre propre expérience?
Bon, je suis entré en contact, avant même d'entrer dans le marché, je suis entré en contact avec d'autres producteurs de vin,
mm-hmm.
qui malheureusement ne m'ont pas donné quelque chose de satisfaisant. Bon, je me suis dit que peut-être moi, ils m'ont trouvé comme étant un concurrent. Bon,
Non, la collaboration, c'est un peu compliqué.
C'est un peu compliqué, en fait. Bon, déjà, moi, je suis un autodidacte, j'apprends, je fais beaucoup de recherches. Et aussi, actuellement, j'ai intégré le groupe Assenia.
Oui.
Déjà, avec eux.
Oui, avec tout le réseau de Karine Nandela, ça va forcément porter ses fruits. On salue d'ailleurs son travail et tout ce qu'elle fait depuis à peu près 2017-2018 pour mettre en lumière les entrepreneurs.
Oui, c'est une grande dame.
D'accord, on espère que justement cette intégration, cette appartenance à ce réseau va vous aider à pousser quelques portes, à saisir quelques opportunités au passage. Monsieur Ekwopman, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous parler de cet hydromel.
Merci.
Voilà, on a terminé avec notre passager du jour. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite.
Hey, c'est pas parce que tu quittes ton véhicule.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.